Lecture de Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume de Dieu, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Verset 41. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Amen.
Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être ensemble. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et grâce à Dieu, nous sommes tous heureux de pouvoir louer Dieu ce matin. Beaucoup de visiteurs, je vois des visages qui se sentent les bienvenus ici avec nous ce matin. Il y a quelques années, les journaux de Floride racontaient une histoire assez rocambolesque d'un habitant de Tampa en Floride. Celui-ci avait été fêté un événement chez des voisins, pas très loin, et avait bu passablement, hein, c'était un événement très arrosé, et à la fin de la soirée, très tard, il revenait chez lui, il avait un peu de mal, beaucoup de mal à retrouver son chemin. Il a sûrement fait beaucoup de tours et de détours, et à un moment donné, c'était tellement long et tellement pénible que l'idée lui vient, on ne sait pas pourquoi, il se dit, tiens, est-ce que si je cambriolais une maison, ça donnerait un peu de piment à mon trajet? Et il repère une maison où il y avait une fenêtre qui n'était pas complètement fermée à l'étage, et malgré son état éthylique avancé, il arrive à se hisser, il arrive à atteindre la fenêtre, et à se glisser dans les lieux. Il se retrouve dans la maison, il prend dans un sac l'argent liquide qu'il trouve, il prend les objets de valeur, et il repart par la porte de derrière qui donne sur l'autre rue, donc pour ne pas être trop vu, hein, il était imbibé, mais il n'était pas complètement inconscient, et pour couronner le tout, il met le feu à la maison pour cacher les traces de son effraction. Et il s'en va dans la rue, un petit peu goguenard, un petit peu content du bon tour qu'il venait de jouer au propriétaire de cette maison. Et il avance péniblement toujours, mais l'alcool commençait à se dissiper un petit peu. Il va jusqu'au bout de l'allée de la rue, il tourne, il fait le tour, il contourne la dernière maison et se retrouve dans la rue parallèle. Et il voit un truc qui le surprend, il voit des voitures de pompiers qui sont arrêtées, là, devant une maison, et il reconnaît que c'est sa maison. Et vous avez compris, c'est qu'il venait de cambrioler et de mettre le feu à sa propre maison. Alors, c'est à peine croyable, on pense que c'est un gag, mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Le bonhomme s'appelait Wayton Pendergast. Bon, il avait déjà un nom un peu bizarre, mais c'est une histoire qui est authentique. Je ne dis pas ça pour prêcher sur les dangers de l'alcool, hein. C'est pas mon propos ce matin, mais arrivé devant sa maison, bon, il lui restait plus grand-chose, et il regarde son sac, le sac où il avait mis un certain nombre d'objets de valeur et d'argent, et il dit « C'est incroyable, je ne savais pas que je possédais autant de choses de valeur. » Donc c'était une maigre consolation. Mais c'est surtout cette remarque qui m'intéresse. Il dit « Je ne savais pas que je possédais autant d'objets de valeur. » Et je me suis dit est-ce qu'on est toujours conscient du fait qu'on a tellement de choses qui ont de la valeur pour nous tellement de choses qui représentent une valeur à nos yeux. Est-ce que dans notre vie, tout ce que nous avons, tout ce dont nous jouissons, nous en sommes vraiment conscients, nous donnons du prix à ces choses? Quand nous sommes dans nos pays, on dit qu'on est pauvre si on est en dessous d'un certain revenu, si on n'a pas un certain nombre de choses qui sont des choses essentielles, mais quand on est pauvre dans d'autres pays, dans certains pays, quand je suis pauvre, c'est que je n'ai pas à manger du tout. Quand je suis pauvre, c'est que je n'ai pas de toit. Quand je suis pauvre, c'est que je n'ai pas d'eau à boire. Quand je suis pauvre, c'est que je ne peux pas me soigner. J'ai aucun moyen de me soigner. Et donc, c'est un peu relatif. Et je pense qu'un certain nombre de ces avantages que nous avons, nous les considérons un peu comme étant naturels. Si j'ai un toit, si j'ai de la nourriture, même si je ne mange pas des choses très chères et très compliquées, j'ai de quoi manger. J'ai souvent une voiture. Un pauvre a une télévision. Il a une machine à laver. Donc, nous avons un certain nombre d'avantages, certes, ça ce sont des avantages matériels, mais l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, au verset 3, nous dit que, il nous dit quoi ? Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » Donc l'apôtre Paul dit que, en plus des bénédictions matérielles que nous pouvons avoir, Dieu nous a donné des bénédictions spirituelles et il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et donc, comme notre bonhomme, là, dans cette petite histoire, nous n'avons peut-être, nous découvrons peut-être, ou nous ne nous rendons pas bien compte de ce que nous possédons réellement comme bénédiction matérielle et spirituelle. Et nous sommes peut-être à la recherche de choses que nous avons déjà, et nous n'utilisons peut-être pas ce que nous avons à notre portée. Et ça, c'est très important parce que nous allons toujours être un petit peu à la recherche de l'impossible, de choses qui sont au-delà de nos besoins, qui ne correspondent pas à ce qu'il nous faudrait vraiment, sans tirer parti de ce que nous avons et qui est à portée de la main et dont nous pouvons jouir et dont nous pouvons faire bénéficier les autres. Il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, tu verras quoi ? En adorant combien le nombre en est grand. » Et on est surpris. On peut être surpris de voir combien Dieu nous a bénis. On ne s'en est pas vraiment rendu compte. On n'a pas vraiment prêté attention parce qu'on trouvait ça normal. On trouvait ça allant de soi, finalement, faisant partie de la vie normale. Une fois qu'on a découvert ces bénédictions, on peut se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais peut-être jouir de ces bénédictions, je vais peut-être en profiter. Et il y a un autre risque, qui peut se greffer, c'est de se dire, bon, ben, je vais profiter des bénédictions de Dieu, je vais me laisser aller entre ses bras, et puis tout va bien, je vais grossir, je vais engraisser spirituellement, et je vais devenir obèse, et je vais bien sûr avoir des problèmes. Parce que je ne peux pas devenir obèse spirituellement, je ne peux pas profiter de ces bénédictions au point de tomber malade, en quelque sorte, tomber malade spirituellement ou physiquement, et ensuite ne servir à rien, puisqu'une fois que je suis malade, je ne peux plus rien faire. Ces bénédictions de Dieu, il y a un principe, c'est que si je reçois, il faut que je donne. Il faut que ça sorte d'un autre côté. Sinon, ça va s'amasser là, ça va produire des effets contraires à ceux que j'attendais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se gaver, excusez-moi le terme, on ne peut pas se gaver spirituellement comme des oies. On ne peut pas vivre simplement en étudiant la parole, en priant, en étant confiné, en étant, simplement des étudiants, simplement des gens qui vivent des bénédictions de Dieu, qui reçoivent et qui gardent ce qu'ils ont reçu. Jésus disait, quand on l'a interrogé sur les commandements, quel est le plus grand commandement ? Matthieu 22, il dit quoi ? Le plus grand commandement, c'est « tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence ». Et il ajoute, il y en a un second qui lui est semblable. C'est la même chose. Je ne peux pas uniquement aimer Dieu, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et si j'aime mon prochain, je vais essayer d'être en bénédiction à mon prochain. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement essayer d'amasser ces bénédictions de Dieu pour moi-même, je vais en faire profiter les autres. J'aimerais que nous lisions dans Actes au chapitre 19 un texte qui parle justement de l'activité de Paul. Alors qu'il était à Éphèse, vous savez qu'il a passé 2 ans à Éphèse, il a eu une activité, il a créé cette communauté d'Éphèse, et il a eu une activité très longue. Souvent, il restait beaucoup moins de temps que ça, donc il est resté très longtemps à Éphèse. Et au verset 11 du chapitre 19 des Actes, on lit donc ceci, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes ambulants, des juifs, entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus, celui que Paul proclame ». Il y avait 7 fils d'un certain Séva, un des grands prêtres juifs, qui faisait cela. L'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais et je sais bien qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux, prit l'avantage et les battit tous avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, juifs et grecs. La crainte s'empara d'eux tous et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Donc on a là l'expérience de Paul. Et Paul était présent dans cette ville d'Éphèse, et on nous dit que ça ne laissait pas indifférent ceux qui étaient autour. Il n'y avait pas que la prédication, et Paul prêchait, on le voit, il va dans les synagogues où il réunit les gens pour pouvoir leur prêcher, mais il faisait aussi des miracles, on dit. Il faisait de tels miracles qu'après, même quand il n'était pas là, on faisait quoi ? On mettait les choses qu'il avait portées, sa tunique, on le mettait sur les malades, et curieusement, les malades étaient guéris. Donc on se dirait, bon, là, on est un petit peu dans la superstition, on est en train de glisser carrément dans ce qu'il ne faut pas faire. On va donner de la valeur à des reliques, à des bouts de bois parce que c'est le bois de ceci ou c'est le bois de la croix ou c'est le et on va essayer de faire des miracles avec et on est un petit peu à la limite, mais avec la femme qui a été guérie par Jésus et qui a touché les franges de son vêtement, on était aussi à la limite. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Est-ce que c'est le vêtement qui a guéri cette femme ? Hein, vous lisez dans Marc 5, c'est bien détaillé. Est-ce que c'est le vêtement ? Non. Jésus a dit quoi ? J'ai sorti qu'une force est sortie de moi. Et il dira à la personne, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cet attouchement de la foi, ce bras tendu de la foi, il existe même si les formes sont un petit peu limites. Et là, c'est la limite. Mais la présence de Paul à Éphèse n'a laissé personne indifférent. Paul n'est pas passé à Éphèse en tant que prédicateur, puis il a disparu, on ne l'a plus vu, il n'a rien fait. Ceux qui étaient à côté bon, s'en sont rendus compte, les autres n'ont pas noté sa présence. Et ça ne s'est pas passé comme ça. On nous dit que tous les gens venaient, ils étaient guéris. Et on ne peut être croyant que si on est en bénédiction aux autres. Il est incompatible d'être croyant et d'être insensible aux autres. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Et c'est très difficile quand, par exemple, quelqu'un quitte un emploi pour aller chez un autre, dans une autre entreprise, et que une fois qu'il est parti, ceux qui sont là disent on est bien débarrassé. Hein. Vous savez, il était pénible, hein, avec ses histoires de sapins, de trucs. Hein. Ouh là là, il nous gonflait la tête avec ses prophéties, ses machins. Bon, très bien. Il est parti, c'est une bonne chose, tant mieux pour lui qu'il se développe ailleurs, qu'il aille embêter les autres, mais pour nous, on est tranquille. On ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas avoir ce genre de témoignage. Si j'ai travaillé quelque part, si j'ai vécu quelque part, si je vis dans ma famille, je ne peux pas avoir ce genre de témoignage. Dire tant mieux, il est parti, quel soulagement! Je suis obligé d'être en bénédiction aux autres. C'est-à-dire que quand je suis parti, vous savez ce qui s'est passé avec Dorcas, la dame qui faisait des vêtements pour les veuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dans les Actes au chapitre 9, on retrouve cette histoire, ce récit de cette femme. Et au verset 36, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est bien le verset 36. Il y avait à Joppé une femme disciple nommée Tabitha, ou selon la traduction Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. C'est-à-dire qu'elle était, elle mettait en pratique, elle recevait des bénédictions de Dieu, elle était capable de coudre des vêtements. Et elle utilisait son savoir-faire pour faire des œuvres de compassion envers les veuves qui étaient autour. Je veux dire, là où on est, si on n'est pas capable de faire des œuvres de compassion et qu'on se dit disciple du Christ, c'est qu'il y a une incohérence quelque part. Il y a une incohérence quelque part, quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que dans notre Église, nous organisons de façon ensemble des kermesses bientôt, nous organisons des repas des invités, nous essayons d'aller vers les autres, mais individuellement, là où nous sommes placés, dans notre famille, nous devons être en bénédiction à notre mari, à notre femme, à nos enfants, pas aller très loin, hein. Déjà commencer là où nous sommes, dans notre entourage, je dirais, de travail, vis-à-vis de nos collègues, dans le lieu où nous habitons, vis-à-vis de nos voisins, dans notre commune, dans notre pays. Nous devons être en bénédiction aux autres. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. Et là, Dorcas l'était, et les veuves pleuraient sa mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'elle n'est plus là? C'est pas on est bien débarrassé, elle est partie, elle est morte, tant mieux. Non. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'elle n'est plus là? Comment est-ce qu'on va vivre? Et c'est ça que doivent dire les personnes que nous quittons, les personnes qui nous connaissent, se rendre compte que nous leur apportons quelque chose. Alors vous allez dire, bon, moi je ne sais pas ressusciter des morts, je ne sais pas guérir des malades comme ça en imposant les mains, je ne sais pas chasser des démons, moi non plus. Mais je peux sourire. Je peux écouter une personne, je peux lui porter une parole de réconfort, je peux lui porter une parole d'espérance, d'espoir. Et combien de personnes aimeraient être écoutées, aimeraient quelqu'un qui leur prête attention, alors que maintenant, avec la vie qui va très vite, avec les choses qui se passent, souvent on n'a pas le temps, on vole d'une situation à une autre en laissant de côté ceux qui ne suivent pas. Et C'est ça qui est indispensable. Quand on voit la vie de Jésus, il allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien, on dit. Il prêchait, il faisait du bien. Donc, c'est ça le modèle que nous avons. Et il est impensable de pouvoir, je dirais, passer dans la vie sans, en négligeant les autres, en étant indifférent à la situation de ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul, dans le en parlant aux Corinthiens, hein, dans la première épître au chapitre 12, il dit « Nous avons reçu des dons ». Alors tout le monde n'a pas reçu les mêmes dons, tout le monde n'est pas capable de guérir, tout le monde n'est pas capable de faire des choses de ce type-là, mais il dit « Certains ont reçu une parole de miséricorde, une parole de sagesse ». Certains sont capables de faire en sorte que la paix revienne. Et Jésus disait « Heureux les artisans de paix ». Et ça, c'est possible, essayer de lutter contre la violence. C'est possible de faire en sorte que des gens qui se battent arrêtent de se battre. Ça, c'est possible. Certains ont cette possibilité, ce don-là de parler, de toucher les cœurs et de ramener la paix là où il y a la guerre, là où il y a la lutte. Et donc, nous sommes appelés à faire ça, à développer nos dons. Et certains diront, oui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, je suis un peu timide, je suis un peu réservé, je suis introverti, et j'ai du mal à aller vers les autres. C'est là qu'il faut relire le début de ce texte, parce qu'il y a deux façons d'être en bénédiction aux autres. Et c'est ce que dit le texte. Le texte commence par... Dieu faisait, le texte des Actes que nous avons lu, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le texte ne dit pas Paul faisait des miracles extraordinaires. Il dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ça veut dire que Paul était quoi ? Était l'instrument de Dieu. Et ce que Dieu nous demande, c'est pas d'être très fort et de pouvoir, par nos propres moyens, guérir des gens, les sortir de leurs problèmes, leur trouver des solutions, mais c'est d'être l'instrument de Dieu. C'est d'être pénétré par ce Dieu. On a parlé la dernière fois de connaître Dieu. Et cette connaissance de Dieu devait nous transformer, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Elle doit nous transformer pour nous rendre capables d'agir. Et c'est parce que je reçois de Dieu que je peux être l'instrument de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour pour les autres. Et on voit qu'il y a, la démarche inverse. La démarche inverse, ce sont les fils de Séva. On vient de lire leur histoire. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de manipuler Dieu. De manipuler la puissance de Dieu. Ce sont des exorcistes professionnels. Donc ils se disent, si en disant telle formule, ça marche, on ne veut pas savoir d'où ça vient, en tout cas la formule fonctionne. On a vu pour Paul que ça fonctionnait, il disait au nom de Jésus, donc nous on va dire au nom de Jésus. Mais comme ils se méfient un peu, ils disent quoi ? Ils ne connaissent pas vraiment Jésus, donc ils disent au nom de ce Jésus dont Paul... à parler. Comme ça, bon, on est un peu couvert. Si la formule marche pas, on dira, bon, nous, on n'est pas Paul, donc, excusez-nous, ça marche pas. On n'a pas bien compris comment il fait. Et ils essayent de vivre de cet exorcisme, ils essayent de gagner leur vie en manipulant la puissance, quelle que soit la formule, peu leur importe. Ce qu'il faut, c'est que la personne soit libérée. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas, pour la bonne raison qu'on n'est pas en train de manipuler Dieu, on n'est pas en train de manipuler des formules, on n'est pas en train de faire le beau à côté de nos voisins, à côté de notre femme, de notre mari, de nos enfants ou de nos collègues. On est en train d'essayer d'être l'instrument de Dieu. Et si je ne suis pas pénétré par Dieu, ah si, je vais compter sur mes propres forces, mais voyez... Les forces du mal sont bien plus supérieures à ce que nous pouvons avoir comme force et comme intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé pour les fils de Séva ? Ils ont fui nus. Le texte dit ils sont partis tout nus et roués de coups. Qu'est-ce que leur a dit le démoniaque ? Qu'est-ce qu'il leur a dit, ce démoniaque ? Les démons parlaient par la bouche du démoniaque, c'était lui aussi l'instrument de... du diable, et qu'est-ce qu'il leur a dit ? Jésus, on le connaît ? Bien entendu, le diable connaît Jésus, il n'ignore pas qui est Jésus. Il dit, Paul, on sait qui c'est. Ah, il nous donne du fil à retordre, celui-là. Il vient nous voler nos personnes que nous voulons garder chez nous, il vient nous les voler, et lui, on le connaît. Mais vous ? Qui êtes-vous ? Vous venez pourquoi ? D'où vient votre force, votre puissance? Ah, c'est la vôtre. Mais vous ne nous faites pas peur, hein. Ah, vous ne nous faites pas peur, hein. Vous croyez que vous nous faites peur, hein. Vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est là que le démoniaque les saisit et leur arrache les vêtements et les bat et les roue de coups. Voilà ce qui se passe. Je ne peux pas venir avec ma propre force. Jésus, le diable le connaît. Paul, il sait qui c'est. Mais moi tout seul, qui je suis là, dans ce jeu? Si je me permettais, je prendrais l'expression des cités, je dirais, vous les bouffons là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez faire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez nous faire peur, c'est ça? Vous pensez nous faire peur? Mais c'est pas possible. Et donc, on est là face à un mur. Si on essaye d'y aller tout seul, on est face à un mur. Mais si on est comme Paul, l'instrument de Dieu, alors des choses extraordinaires se passent. Des choses que nous aurions imaginé pas être capables de faire, parce que nous n'aurions pas pensé que c'était possible pour nous. Ces choses vont se réaliser. Et tous ceux qui ont essayé d'être en bénédiction à ceux qui les entourent, je ne parle pas des grandes personnes qu'on a connues, que ce soit Albert Schweitzer, que ce soit Mère Teresa ou d'autres qui ont consacré leur vie aux autres, mais dans le petit environnement, tous ces personnes qui ne sont pas connues, qui agissent dans leur petit environnement, toutes ces personnes-là sont des instruments, ont été des instruments et sont des instruments de Dieu. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est justement de nous laisser être sa bouche, de nous laisser être ses mains, de nous laisser être ses pieds, de nous laisser utiliser nos compétences. Vous savez, quand Goliath a été tué, David savait manier la fronde. Il avait dit quoi? Il a dit quoi, David? Que quand il était jeune, qu'est-ce qu'il faisait avec sa fronde? Il tuait le lion et l'ours qui essayaient de manger ses moutons. Donc il avait une compétence, mais ce n'est pas par la seule compétence de David que Goliath a été tué. David l'a reconnu, que c'est Dieu qui a guidé la pierre. Dieu va utiliser nos compétences, mais il va faire en sorte que ces compétences aillent droit au but, qu'elles atteignent le but, qu'elles atteignent les autres. Et c'est là l'enseignement, je dirais, l'enseignement de ce texte, c'est là toute l'originalité, je dirais, du christianisme, c'est que c'est une religion qui doit être ouverte aux autres, qui doit apporter aux autres. On ne peut pas rester confiné à soi-même devenir obèse, comme je disais, soi-même profiter des bienfaits de Dieu et laisser les autres en dehors, non. On ne peut que partager. On nous a lu un texte, on nous a lu le texte de Matthieu 25, qu'on appelle le jugement des nations. On n'a pas lu tout le texte, on a lu les passages qui sont significatifs, c'est-à-dire que Dieu va mettre les brebis et les boucs, les uns à sa gauche, les autres à sa droite. Et il dit quoi? Vous le connaissez par cœur, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ce n'est pas des choses extraordinaires, hein. Ce n'est pas hors de notre portée. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez soutenu, vous êtes venu me voir. Ce sont des choses qui sont tout à fait à notre portée et ce sont des choses qui sont plus appréciées que ce que nous pourrions penser quand nous y réfléchissons. Nous disons, bon, un verre d'eau, un bout de pain, c'est rien, enfin, ça ne peut pas changer le monde. Ben si. Mais oui. À tel point que Jésus dit, entrez dans le royaume qui vous a été préparé, alors que à ceux qui n'ont rien fait, qui ont resté indifférents, qui se sont dit, oh, ça ne sert pas grand-chose, cette affaire-là, donner un petit truc, donner une offrande, bon, ça ne sert pas grand-chose, ben, il leur dit, allez avec les anges, allez avec les anges de Satan, avec ceux qui n'ont rien fait, justement, qui n'ont servi à rien. Et je peux avoir la foi, je peux avoir l'impression que je crois que je suis attaché à Dieu si je ne sers à rien pour mon entourage, si je n'ai pas une action positive, si je n'ai pas quelque chose qui passe une attitude de miséricorde, une attitude de compassion, une attitude de je dirais, d'humanité simplement, d'humanité. c'est que mon christianisme est parti de travers. Il a pris la mauvaise pente. Et là où est un chrétien, là devrait être aussi la joie, la paix, devrait être l'entente, devrait être tous ces sentiments, devraient être la fraternité humaine. Et tous ces sentiments-là doivent être le résultat de mon christianisme, de ma foi, de ma croyance en Dieu. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que nous pouvons demander à Dieu de nous aider à être en bénédiction aux autres, à être là où nous nous trouvons, avec des petites choses simples, que nous fassions quelque chose pour ceux qui sont autour de nous, dans notre famille, je disais, vis-à-vis de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents, vis-à-vis de nos collègues de travail, vis-à-vis de nos voisins, et que nous puissions, à ce moment-là, quand nous partirons peut-être, que nous mourions ou que nous déménagions, des personnes diront peut-être, comme ces personnes qui connaissaient Dorcas, qu'est-ce qu'on va faire sans elle ? Qu'est-ce qu'on va faire sans vous ? Que Dieu nous aide.